RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous voilà de retour, 7h10, c'est RMC, le week-end des experts. Bon dimanche et merci d'être là. Tout à l'heure, entre 8 et 10, Jean-Luc Moreau me rejoindra. 2 heures dédiées à l'auto, on reviendra encore une fois sur les inondations. Que faire lorsque sa voiture est inondée? C'est la panique, certes. Est-ce qu'on peut réparer une voiture inondée? Quid des assurances? On répondra à toutes vos questions, bien sûr, tout à l'heure à partir de 9h. Et puis Jean-Luc nous proposera aussi l'essai de la semaine. C'est la Kia Niro, c'est le premier crossover hybride, entre autres. Ce sera donc à partir de 8h sur RMC. Mais d'ici là, les animaux, notre vétérinaire Laetitia Barlerin est toujours à mes côtés. Et pour cette deuxième partie dédiée aux animaux, Laetitia, on va évoquer tout à l'heure le coq le plus célèbre supporter des Bleus. On évoquera aussi la Journée mondiale des océans. On va évoquer aussi un panda qui est né dans un zoo en Belgique.
Et oui, c'est le carnet rose de la semaine.
Voilà, on interviewera aussi un jeune handler. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est un handler? Eh bien, c'est la personne qui va promener le chien lors de championnats de beauté d'animaux.
Voilà, qui coach les chiens qui se présentent devant les juges pour être les plus beaux de leur race.
C'est le partenaire du chien, en quelque sorte.
C'est un peu le coach de Miss France, voyez.
C'est
un peu ça.
Et puis, pour débuter, Laetitia, on va revenir sur l'actualité de cette semaine, les inondations. Et essayer de comprendre comment travaillent les pompiers lorsqu'ils viennent au secours des animaux lors d'inondations.
Et nous sommes avec le docteur Delphine Claro, qui est vétérinaire capitaine à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Delphine, bonjour.
Bonjour Laetitia.
Bienvenue. Alors, vous faites partie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est bien sûr très occupée ces derniers temps, on l'imagine. Ce qu'on sait moins, c'est que la brigade comporte une équipe cynotechnique avec des chiens de recherche pour des personnes disparues, et aussi une équipe formée pour capturer des animaux. Alors, dans quelles circonstances précises intervenez-vous?
Alors tout à fait, nous avons 18 personnels donc qui sont partis des personnes qui ont des chiens de recherche de personnes égarées en Sophie, donc qui vont avoir pour mission de les former, les maintenir à niveau et prendre soin d'eux d'ailleurs dans la suite de leur carrière, puisque quand ils partiront à la retraite, ces mêmes personnes garderont leurs chiens. Ces personnels sont également formés à la capture des animaux en situation de dangerosité, donc qu'ils soient blessés ou dans des situations où le propriétaire ne peut pas ou ne doit pas, pour des raisons de sécurité, intervenir par lui-même.
Alors justement, lors d'inondations, d'intempéries, il y a les urgences humaines, les personnes à évacuer, à secourir. Quelles sont les urgences animalières?
Les urgences animalières peuvent être multiples, puisque vous pouvez avoir des animaux domestiques qui soient dans la capacité de sortir parce que le propriétaire est absent de leur bâtiment. Donc il va falloir les prendre en charge. Ça peut aussi être des animaux qui sont surpris par la montée brutale des eaux, notamment les animaux qui sont dans des prés.
Oui, les chevaux, les vaches.
Les propriétaires en prennent conscience. Mmh. L'eau est malheureusement trop haute pour que le propriétaire puisse lui-même sortir son animal.
Alors justement, quand vous intervenez aussi peut-être pour les chiens ou les chats qui sont dans l'eau, qui peuvent se noyer aussi, bien entendu.
Tout à fait. Alors eux, dans la mesure du possible, on va essayer de les prendre en compte en même temps que leur propriétaire. C'est vrai que nous, c'est l'idéal, dans le sens où notre équipe de spécialistes animaliers est peu nombreuse, même si on en a 4 d'astreinte en permanence, plus un vétérinaire qui va intervenir avec eux. L'équipe reste en quantité numérique relativement faible dans ce genre de situation. Donc les chiens et les chats, on va essayer un maximum de les évacuer en même temps que le propriétaire dans des caisses de transport ou avec une laisse, de façon à ce que ça réduise l'impact du travail sur les équipes spécialisées qui, elles, vont plutôt se focaliser sur les animaux qui ne sont pas avec leurs propriétaires, donc des personnes qui seraient soit au travail, soit en congé, avec quelqu'un qui devait passer régulièrement pour s'occuper du chien et qui sont absentes au moment où les eaux montent.
Mais alors, là, l'animal, il peut être en panique avec la montée des eaux, parce que le cheval est dans un pré, il peut pas s'en aller. C'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour vous. Comment gérer la situation?
Alors ça, c'est tout le travail de formation hein, qu'on va mettre en place, c'est-à-dire déjà savoir lire l'animal correctement, savoir repérer ses signes de panique, savoir quels vont être ses points vraiment dangereux pour la personne qui va intervenir. Et c'est vrai que sur les plus grands animaux, là, la situation se complique, hein, sur le chien ou le chat, ou le petit mammifère, hein, parce qu'on a aussi un certain nombre de nactes en Paris. Le danger est quand même relativement faible pour les sauveteurs à partir du moment où ils savent lire correctement l'animal. Pour les gros animaux, l'intervention parallèle du vétérinaire pour tranquilliser l'animal.
Oui, donc vous venez
via des tranquillisants chimiques. Oui. Peut être indispensable dans de nombreux cas.
Et vous êtes bien équipés pour prendre en charge ces animaux ?
Alors, nos équipements, on va aussi, dans ces cas-là, compter sur les équipements qui sont à notre disposition et ou qui peuvent être mis à notre disposition. Par exemple, pour des chevaux, c'est vrai que dans ces cas-là, on peut souvent compter sur les centres équestres voisins pour nous aider à avoir plus de places disponibles et plus de vent disponible si on en a besoin. Nous, directement sur Paris, nous n'avons pas, par exemple, de vent de transport. Par contre, nous avons des conventions.
Il y a peu de
chevaux dans Paris, mais nous avons des conventions avec les départements de la petite, de la grande couronne, qui eux ont à disposition un ou deux vents. Donc, c'est faible hein, en termes de nombre. C'est pour ça qu'on a aussi besoin parfois du matériel qui va être mis à disposition par les personnes qui en ont.
Alors, vous êtes sur Paris. Bon, Paris, il n'y a presque rien eu. Hein. On attendait vraiment la grande crue. Qu'est-ce qui était prévu ? Il y avait un plan qui était prévu. Ce que je venais de dire, c'est que on sait où évacuer les personnes, hein, dans des stades, etc., dans des endroits où on les recueille, mais les animaux ne sont pas acceptés. Où vont les animaux ?
Alors, les animaux, on a beaucoup travaillé dessus au moment de l'exercice Sequana, donc qui a eu lieu en mars dernier, et qui avait pour thématique justement la crue centenale. Donc, c'est un exercice qui a eu lieu d'ailleurs pas que sur Paris, hein, dans d'autres départements également. Et donc, l'objectif était un petit peu de voir où on allait passer les personnes et les animaux, puisque en tant que vétérinaire, on a beaucoup insisté pour que cette problématique là, qui n'en est pas une d'ailleurs hein, dans la vie courante, soit prise en compte également en cas de crue massive. Et donc l'idée est d'une part d'essayer un maximum d'évacuer avec les animaux les personnes et de les mettre dans des endroits qui ne sont pas des lieux collectifs finalement de regroupement des personnes, tout simplement pour des raisons qui sont sanitaires. Et à la base on peut se dire mais un chien n'est pas malade ou un chat n'est pas malade, mais il faut quand même penser à la population qui est allergique aux poils d'animaux. Oui. Et donc l'objectif n'est pas de mettre des animaux en présence de personnes qui sont allergiques pour que ces personnes-là aient des symptômes asthmatiformes. Donc ça peut vraiment être dangereux et c'est un vrai enjeu hein, que de ne pas avoir d'animaux dans trop de centres de regroupement des personnes. Donc du coup il y a deux idées majeures qui se sont dégagées de ça et qui n'ont finalement pas été mises en œuvre hein, aujourd'hui sur l'épisode de montée des eaux que nous avons eu. Soit avoir des centres spécifiques, donc où là on autorise les animaux sur un ou deux endroits, soit avoir des chenils temporaires, notamment pour les personnes qui ne seraient pas avec leurs animaux au moment où on les capture.
Et ça c'était prévu alors ?
Et ça c'est prévu.
D'accord. Et là vous êtes encore en alerte ?
Alors là, beaucoup moins avec la décrue des eaux. On est plutôt face à de l'eau qui va se retirer que de l'eau qui va continuer à monter. Maintenant, c'est vrai qu'on est, on peut être mis en alerte très très rapidement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon toujours des équipes de garde, donc qui ne vont pas intervenir uniquement en période de crue. Et dans ces cas-là, les équipes de garde relayent aux autres qu'on peut avoir besoin de renforts. Et donc c'est ce qui s'est passé. Jeudi dernier, pour Paris. Voilà. Maintenant, je pense que dans les autres départements, petit à petit, l'alerte avance aussi. Même si, bon, il faut quand même garder en tête que parfois, les moyens humains animaliers sont limités.
Rassurez-nous, dans tous les départements, il y a des pompiers qui sont formés pour porter assistance aux animaux ?
Dans tous les départements, vous avez des pompiers qui sont formés là-dessus et qui font la formation continue régulière. Après, ce qui varie beaucoup, c'est le nombre de personnes qui sont formées. Et après, il faut quand même garder en tête que dans une situation d'inondation, il n'y a plus que les personnes formées qui vont être amenées à aider les animaux. C'est-à-dire que quand vous avez votre propre chien ou votre propre chat, ce n'est pas forcément un spécialiste animalier qui va venir vous aider à évacuer avec votre votre animal. Bah, ça peut aussi être d'autres pompiers non spécialisés dans cette thématique-là.
Merci beaucoup Delphine Clairon.
Merci. C'est vrai qu'on l'a vu sur des images avec des pompiers qui évacuaient des personnes avec leurs animaux, soit le chat dans la cage, soit le chien dans les bras, bien entendu. Merci Delphine.
Nous revenons dans un instant, Laetitia, il est 7h19. Nous aurons avec nous Morane Guigné, qui est championne de France de junior handling.
Alors c'est quoi le handling?
Vous saurez tout sur cette activité dans un instant. C'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. 32-16, si vous voulez poser votre question, réagir bien évidemment. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Voilà, 7h22, on poursuit ce week-end des experts animaux avec la découverte d'une activité étonnante. Champion de France de junior handling, de quoi s'agit-il? Morane Guigné, Laetitia va tout nous expliquer, elle est avec nous.
Morane, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, ce week-end, les plus beaux chiens de race de France se sont donnés rendez-vous à Metz parce que pour le championnat de France. Alors, c'est un peu le championnat Miss France des chiens, on va dire. Hein. C'est un championnat de beauté, un concours de beauté pour chiens. Mais il y a aussi un autre événement, c'est un concours d'handler junior. Alors, expliquez-nous ce qu'est un handler.
C'est ça. Alors, c'est les jeunes présentateurs, parce qu'en fait, c'est un métier. Un handler, en fait, c'est une personne qui va gérer la carrière d'un chien au niveau d'une exposition canine de beauté. Donc, ça peut être quelqu'un qui a le chien chez lui, qui, en fait, il n'est pas propriétaire du chien, mais les gens leur confient leur chien pour les mettre en valeur sur les rings d'exposition.
Ben, pourquoi? C'est quoi le principe? Parce que, le chien de race, il faut qu'il soit beau pour gagner le concours, mais il faut aussi qu'il se comporte bien, c'est ça, devant les juges?
C'est ça, il y a par exemple le statique à faire, c'est mettre le chien en valeur, on va dire, en valeur avec sa race, c'est-à-dire, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit posé de manière à pouvoir mettre en avant ses atouts et aussi pouvoir cacher ses défauts, parce que tous les chiens, aucun chien n'est parfait. Et il faut le handler, il y a aussi comme boulot de cacher les défauts du chien.
Alors vous cachez les défauts du chien aussi.
Alors qu'est-ce que peuvent être ces défauts justement, Morane?
Par exemple, un chien qui va, quand il a aux allures, qui va un peu serrer les pattes à l'arrière, il faut savoir qu'en aller-retour, on va le faire courir moins vite afin d'adapter pour que le chien corrige ça. Et par exemple, quand on fait un tour de ring, là, courir plus vite parce que c'est de profil, donc ça se voit moins, ou des petites choses comme ça. Donc il faut aussi être capable de repérer ces choses et pas seulement avoir un chien au bout de la laisse.
D'accord. Alors, moi, je vois les chiens un petit peu quand ils sont devant les juges, c'est incroyable parce qu'ils sont super calmes, alors qu'il y a énormément de monde autour, énormément de chiens, enfin, n'importe quel chien serait perturbé. Donc, votre rôle aussi, c'est de les calmer et de faire en sorte qu'ils ne bougent pas, par exemple, devant les juges.
C'est ça. Déjà, les chiens d'exposition sont habitués tout jeunes à venir en exposition. À partir de 4 mois, ils peuvent être en expo.
Oui.
Donc, c'est des bébés, hein. Et puis c'est sûr que l'handler est là aussi pour rassurer le chien et puis pour lui apprendre à rester calme aussi.
Et vous leur apprenez comment?
C'est de l'entraînement à la maison ou souvent avec les propriétaires. C'est beaucoup d'entraînement. Tous les jours, à le prendre 5-10 minutes et à lui faire son statique, à lui apprendre par un ordre, par exemple statique ou travail. Et que le chien, il sache qu'il est en condition de travail et là, on ne joue plus, quoi.
Mais alors, comment vous lui apprenez, par exemple, vous savez, c'est un peu comme dans les concours beauté, les Miss France, elles doivent avoir, elles doivent rentrer le ventre et puis être bien droites, la tête bien haute. Les chiens doivent avoir la tête haute, j'ai vu, pendant les concours. Comment vous leur apprenez ça?
C'est selon les races aussi. C'est le tenir, il y a certaines races, les races de chasse, par exemple, il y a une manière de présenter qui fait qu'on leur tient sous le museau. Donc, ça aide aussi à remonter l'encolure. C'est là, par exemple, pour mettre en avant l'encolure du chien. Parce qu'en fait, s'il a la tête plutôt basse, la ligne de dos va pas être super jolie non plus.
D'accord.
Tout est lié, on va dire.
Est-ce que la tenue, l'élégance du handler est importante pour l'appréciation du chien?
Oui. J'en discutais encore hier avec des juges. Un maître ou un handler qui a un beau chien, mais qui ne se met pas lui-même en valeur, le chien, en fait, il ne ressort pas forcément en valeur non plus. On remarque aussi plus facilement quelqu'un qui porte un costard-cravate.
Il ne faut pas venir en jogging, quoi.
Voilà, éviter le jogging.
Donc vous-même, vous êtes habillé comment quand vous présentez les chiens?
Nous, en tant que fille, c'est souvent le tailleur ou la robe et la veste.
Donc l'élégance.
C'est ça.
Et est-ce que vous adaptez votre tenue à la race du chien?
Oui, alors en fait, plutôt à la robe du chien.
À la robe du chien. Il faut que la robe aille avec la robe du chien, c'est ça?
Ben non, justement, c'est l'inverse. Si on a un chien noir, on va s'habiller plutôt en clair et l'inverse, et inversement. Si on a un chien, on va surtout privilégier, on va dire, les couleurs vives pour faire ressortir le chien. Comme on est placé derrière le chien, si on est en noir, bah, de loin, on voit noir sur noir, en fait.
Ah, c'est toute une tactique.
Voilà, c'est contraire à la couleur de la robe du chien.
D'accord. Vous avez quel âge, hein?
Moi, j'ai 19 ans.
Et vous avez commencé à présenter des chiens à quel âge?
Quand j'ai eu ma chienne il y a 8 ans, donc j'ai fait un tout petit peu de présentateurs juste pour m'entraîner. Parce qu'en fait, en expo, il y a donc le handler et les jeunes présentateurs. Et ça, c'est jusqu'à 18 ans.
D'accord.
On va dire que c'est là qu'on apprend un peu la discipline. Donc, on fout les deux.
Et vous présentez quel chien, quelle race de chien?
Moi, je ne sais plus.
Ah. Bon, ben Morane, ça y est, c'est
on
fini.
On a perdu
Morane. Oui, voilà. Morane.
Vous m'entendez?
Oui. Là, on vous entend. Oui.
Je disais, moi, j'aime ma préférence hein, pour les chiens de chasse, mais ça peut aller du Yorkshire un jour à un grand lévrier le lendemain.
C'est alors, handler, c'est un métier hein, aux États-Unis. Est-ce que c'est un métier en France?
C'est un métier qui est en phase d'être reconnu. Les gens qui s'occupent de ça sont en train de faire en sorte que voilà, c'est très réglementé, que tout le monde peut pas faire. Il y a des certificats à avoir parce que voilà, il faut un minimum connaître les chiens, un minimum connaître la sécurité des chiens. Si un jour, parce qu'on a quand même la responsabilité d'avoir des chiens sous notre garde et souvent plusieurs. Et c'est en train d'être fait de manière à ce que tout le monde puisse pas le faire non plus.
Oui. Et vous voulez le faire quoi? Vous voulez en faire votre métier?
Moi, je garde ça à côté. Je veux le développer, mais voilà, pour ça, moi, je passe mes certificats aussi cette année.
Parfait. Eh bien, Morane, plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin.
Bonne chance pour tout à l'heure, parce que je crois que vous vous rendez au Parc des Expositions de Metz pour la finale hein, des plus beaux chiens de France.
La pression.
Donc, je pense que vous présentez des chiens. Ben, j'espère que ben voilà, vous allez que vos chiens, les chiens que vous présentez, ben vont avoir des médailles
et on le souhaite.
Et des sacs de croquettes.
Un panda né dans un zoo en Belgique. On va évoquer aussi la Journée mondiale des océans tout à l'heure et on découvrira le coq le plus qui est le plus célèbre supporter des Bleus. A tout de suite.
C'était RMC.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Merci d'être avec nous comme chaque dimanche matin, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être là et bienvenue. Sachez que tout à l'heure à partir de 8h, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint, l'automobile. On évoquera les inondations dans ce rendez-vous auto. Que faire si sa voiture a été inondée? Voilà, on parlera des assurances, on parlera aussi des réparations. Est-ce qu'on peut réparer une voiture qui a été inondée? On verra ça tout à l'heure avec Jean-Luc et toutes vos questions auto au 3216. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va s'intéresser à la naissance d'un tout petit panda. Et c'est
oui,
en Belgique.
Oui, c'est en Belgique. Alors, c'est pas en France. Hein.
C'est un panda belge.
Peut-être en France. On en reparlera dans les prochaines semaines. Peut-être. En tout cas, elle présente notre panda femelle française. On commence à présenter des petits signes de gestation, mais on n'est pas sûr encore. En tout cas, en Belgique, il est né. Et nous sommes avec Alexandra Vidanovski, qui est chargée de relations publiques du parc animalier Péri Dessa en Belgique. Alors, ce parc se situe à Bruchelette, c'est à environ une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bruxelles. Ouais. Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, dans la nuit du mardi au mercredi, votre zoo a accueilli un nouveau pensionnaire qui pesait 121 grammes. Alors, c'est pas lourd, hein. C'est un bébé panda géant, bien sûr. C'est une première en Belgique. Comment s'est passée la naissance?
Ouais, la naissance, en fait, c'était le mardi soir. On a commencé à voir scientifiquement que ça allait arriver. Et
c'était fait, quoi les signes chez? Parce que c'est vraiment une crevette, quoi, ce bébé.
Tout à fait, effectivement. Mais en fait, c'est des chutes et des pics d'hormones qu'il faut bien regarder et qui annoncent la naissance imminente dans les 48 heures. Un peu comme nos collègues de Beauval, on est toujours un peu dans le doute. Hein, avec le panda, on espère, on n'ose pas trop espérer. Et en même temps, c'est un animal tellement mystérieux que jusqu'au bout, comme on n'avait pas d'échographie, on aurait pu avoir une fausse grossesse.
Oui.
Et donc, la tension a monté. Mercredi, elle est restée à l'intérieur, au calme. Elle avait l'air très, très bien. Et mercredi soir, aux alentours de 11h du soir, les contractions ont commencé. Oui. Les vraies contractions. Et à 2h du matin, le jeudi 2 juin, à 2h02 précisément, il est sorti. Il était là. Voilà.
mais alors, 120 grammes, c'est quand même pas lourd.
Non, c'est 171.
Ah,
et en fait, c'est dans la moyenne élevée. C'est-à-dire qu'un bébé panda à la naissance, on compte entre 100 et 120 grammes, est un bon poids.
D'accord.
Donc 171, c'est un bon
gros
petit,
bébé.
Oui, voilà.
C'est un gros bébé.
Comment... Pour un panda, oui.
Comment se portent la maman et le bébé? Comment se sont passées ces premières journées?
Alors, elles se sont passées très très bien. La maman Hao Hao, qui n'a jamais eu d'enfant avant, a vraiment eu les premiers réflexes maternels. C'était assez incroyable à voir. Elle l'a pris dans sa gueule, elle l'a protégé. Alors, ça se passe, il y a des moments encore où, évidemment, c'est tout petit, et puis il bouge beaucoup aussi.
Ah.
Il bouge énormément, donc de temps en temps, il glisse. Hein, voilà, ils apprennent à se connaître, ils se cherchent un peu tous les deux, et puis lui, il fait surtout beaucoup de boucan. Donc, elle essaye de dormir comme elle peut, comme toutes les nouvelles mamans, en fait. Hein, mais ça se passe assez bien pour l'instant. Donc, les premières semaines sont évidemment des semaines cruciales. Donc,
oui.
on reste avec. Elle est surveillée 24/24. Il y a des experts chinois qui sont sur place.
Et oui, donc, il y a des experts qui sont sur place pour la surveiller. Mais vous intervenez pas dans leur chambre,
alors,
on va dire.
Si. C'est-à-dire que l'expert chinois, qui est un peu un homme qui murmure aux oreilles des pandas,
oui.
Lui est rentré dans sa chambre quelques heures après pour établir le premier contact avec elle, parce que l'important, c'est qu'elle ait confiance.
Oui.
Et donc, de temps en temps, quelques fois par jour, en fait, il rentre et il va chercher le petit. On a aussi extrait du colostrum de la maman pour quand même veiller...
Le premier lait.
Le premier lait, tout à fait. Pour quand même veiller, parce que comme c'est son premier, il bouge beaucoup, etc., ce premier lait est super important.
Oui.
Donc, elle l'allait aussi, mais en même temps, l'expert chinois lui donne au biberon aussi un peu pour quand même s'assurer qu'il a les premières forces et le système immunitaire nécessaires, parce que avec un peu moins de 2000 pandas au monde, chaque naissance est un miracle
est
super
un événement,
important.
Bien sûr.
Tout à fait. Et donc, ces experts chinois qui ont plus de 25 ans d'expérience, on va dire, en maternité panda,
oui.
C'est assez incroyable de les voir comment ils vont. Et le premier contact, il a pris 15 minutes rien qu'avec elle. Avant de même la toucher ou toucher son bébé, évidemment, parce que ça reste un gros ours.
Elle peut le protéger aussi, ou paniquer tout simplement.
Il y a un coup de patte, et ça peut être fatal pour lui. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Nous, personnellement, on ne rentre pas, évidemment, parce que on apprend plein de choses. Avec eux, on va faire ça pendant ces semaines-ci pour pouvoir bien s'occuper du petit. Idéalement, évidemment, on arrête très rapidement de devoir le prendre. On le pèse aussi, on vérifie si tout va bien. Mais pour que, dès qu'elle pourra vraiment bien l'allaiter facilement, sans qu'il y ait de risque que le petit tombe, etc., il restera tout le temps avec elle, évidemment. Mais les premiers jours, c'est vrai que lui est rentré quelques heures après, et ces images sont assez incroyables. Mmh. Il rentre et il passe un quart d'heure vraiment à la caresser, à lui parler. Il y avait plein de choses qui étaient incroyables. Et je pense que les images qui vont suivre, si on a la chance de pouvoir la voir pendant toute sa vie auprès de nous, vont être assez incroyables. Son animal magnifique.
Il est très attendu, mais est-ce que c'est un petit mâle, hein, c'est ça? Est-ce qu'il a un nom?
C'est un petit mâle.
Est-ce qu'il a
alors,
un nom?
Pas encore. Non, pas encore.
Encore.
Il y a de la superstition chinoise de notre côté aussi, donc on va attendre de toute façon quelques semaines que la plupart des risques soient écartés.
Oui, parce que je crois que c'est la première année chez le panda qui est la plus dangereuse. Hein.
Oui,
elle est déterminante et c'est là
le
où il faut...
Le taux de mortalité est assez élevé, chez les bébés pandas. Forcément, c'est ce qui les rend aussi quelque part en grand danger d'extinction. Si c'était facile, on n'en serait pas là, forcément. Mais, donc, on va attendre. Et puis, la décision se fait en concertation avec la Chine. À Washington, par exemple, c'est la première dame chinoise et Michelle Obama qui ont choisi le nom.
D'accord.
Donc ça prendra du temps à s'organiser, ce genre de choses aussi. Et donc, pour l'instant, il a décidé de s'appeler Baby P. Voilà.
Baby P, d'accord.
Alors,
on voit, on est optimiste, tout se passe bien, il grandit bien. À partir de combien de mois, de temps, de semaines, on pourra le voir, il sera présenté au public?
Alors, si sa maman s'en occupe, si elle ne le rejette pas, parce qu'elle n'a pour l'instant pas l'air de faire, mais on ne sait jamais, si elle ne le rejette pas, il sera visible dès qu'elle pourra retourner dans son enclos intérieur, donc il restera avec elle. Ça veut dire que ça peut être dans les jours qui viennent, dans les quelques semaines qui viennent. Si, par contre, elle ne s'en occupe plus, bah, de toute façon, on a prévu une nurserie sur le côté, où on fera en sorte qu'il sera visible de loin, évidemment, et derrière des vitres, évidemment, pendant que ses soigneurs fassent ses soins. Donc, en fait, assez rapidement, on pense, maintenant, c'est toujours... beaucoup de précautions avec ces animaux-là et donc on peut rien promettre et rien garantir. Mais en tout cas, pour l'été, on espère bien trouver un moyen pour faire profiter tous ces visiteurs qui sont super hâte, qui ont commencé à nous appeler dès le premier article de presse paru pour savoir s'il était visible le jour même.
Oh, je pense que vous allez recevoir des peluches aussi pour votre panda là.
Ah oui, ben
pour
voilà.
La naissance, des cadeaux de naissance.
Voilà, tout à fait. Les
merci
cadeaux de
Alexandra.
Naissance avec plaisir.
Merci beaucoup.
Alors, j'en prie.
Merci.
Donc c'est un panda que vous verrez. Alors on en voit toutes les bonnes zones là. Je pense que voilà, il va bien grandir ce bébé et vous pourrez le voir au zoo de Péridessa. C'est à Brugelette, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bruxelles.
Merci beaucoup Alexandra. Alors 7h41 après Pandi Panda, le petit ourson. Laetitia, on va enchaîner et on va s'intéresser à la journée des océans.
Et oui, elle a lieu mercredi, c'est la journée mondiale des océans et nous sommes avec Anne Vernier qui est responsable éducative au Centre National de la Mer Nausicaa, que vous connaissez sûrement, qui est à Boulogne-sur-Mer.
Bonjour Anne.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors, à l'occasion de la journée mondiale des océans, Nausicaa organise différentes activités ce week-end et durant toute la semaine d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous proposez le marché bon pour la mer et bon pour vous. C'est quoi l'objectif, pardon?
Alors, en fait, on s'est aperçu qu'on avait des partenaires locaux qui avaient des initiatives intéressantes à nous présenter.
Oui.
Et comme pour la journée mondiale de l'océan, cette année, c'est une thématique autour des plastiques qu'on retrouve en mer. Il y a beaucoup de plastique. Et là, l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions pour éviter ces rejets de plastique en mer. Alors voilà, c'est un marché où on va nous présenter déjà pourquoi il y a des déchets, donc à la fois ce qu'on retrouve souvent quand on se promène au bord de la mer, on voit la laisse de mer, donc on va voir qu'il y a dans la laisse de mer des choses naturelles, mais aussi ces rejets plastiques, le trop-plein qu'on retrouve en mer. Et puis on va pouvoir trouver des partenaires qui vont nous montrer... Eh bien, pour pas qu'il y ait ces rejets plastiques, en fait, vous savez que 80% ça vient de la terre, hein, ça vient de ce qu'on consomme et ce qu'on rejette. Voilà, donc en fait, il y a un moment, ça arrive quelquefois dans les rivières, dans les fleuves, et puis tout ça, ça arrive en mer.
Et le problème avec les plastiques en mer, on parle beaucoup des tortues marines qui mangent qui absorbent ces plastiques parce qu'elles les prennent pour des proies.
Oui, en fait, souvent, elles les confondent avec des méduses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a les tortues, mais c'est pas les seules. Il y a, en fait, les oiseaux. Il y a les oiseaux qui pensent que... Parce que, vous savez, les plastiques, quelquefois, les poissons viennent pondre dessus.
Oui.
Et donc, les oiseaux, les albatros, par exemple, vont ingurgiter ces morceaux de plastique.
Oui.
Et puis, finalement, ils nourrissent leurs petits avec ces morceaux de plastique. Et donc, on sait que sur les îles au nord des îles Hawaï, là-bas, il y a beaucoup d'albatros qui meurent, les bébés dans les nids, hein, avec ces morceaux de plastique dans le ventre.
Il y a toute une chaîne de conséquences à la présence de ces plastiques.
Voilà, ça circule pendant de nombreuses années. Et donc, alors non seulement il y a ces micro ou macro plastiques, parce qu'en fait c'est plutôt d'abord des gros objets, mais qui se détériorent un peu à la fois avec le soleil, hein, l'action du soleil, l'action des vagues, tout ça. Et il y en a qui sont beaucoup plus petits, enfin ça devient microplastique. Et on sait que même dans les produits qu'on utilise tous les jours, quelquefois le dentifrice, les produits pour gommer la peau, eh bien il y a aussi ce qu'on appelle, il y a les microplastiques, mais il y a aussi des nanoplastiques. Donc c'est des choses qu'on voit pas du tout à l'œil nu.
Oui.
Et le problème de ces nanoplastiques, c'est que eux aussi circulent en mer et sont maintenant commencent à être entrés dans les chaînes alimentaires. Donc là, c'est un problème un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'à la source...
nous, consommateurs, on agisse. Mais alors, quels sont les gestes, concrètement, quels gestes pouvons-nous faire pour protéger les océans de ces plastiques?
Oui, alors déjà, ben, on va réduire à la source, hein, c'est-à-dire que si on peut éviter d'en consommer, c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est utiliser des produits peut-être qui viennent de façon... qui ont besoin d'être moins emballés parce qu'ils viennent de moins loin. Hein. Le consommer local, c'est toujours plus intéressant quand on peut... Donc là, on va avoir l'association Terre d'Opale qui va nous proposer les produits. Vous savez, les paniers de la mer, c'est un peu comme les AMAP. Hein. Mm-hmm. Après, on a des alternatives. Quand on est obligé d'avoir un plastique, bah, qu'on puisse le trier correctement. Donc
oui.
La communauté d'agglo, elle va nous montrer, enfin, remontrer comment on trie nos déchets. Et puis, on a aussi tout ce qui va être... autour de, bah, peut-être qu'on peut faire de nos produits ménagers de façon plus simple nous-mêmes. Donc là, on a une association qui va nous montrer ça.
Les produits de beauté aussi, je crois.
Oui, les produits de beauté. C'est Carole Bourguin, là, une esthéticienne qui promeut les produits bio du docteur Oshka.
Oui.
Et en fait, elle va nous montrer qu'on peut aussi acheter des produits de beauté qui ne contiennent pas, eux, de microplastiques, parce que c'est quand même, qui sont faits simplement avec des produits naturels.
Est-ce que les enfants, alors les enfants sont très présents au centre Nausicaa, parce que bah, c'est un super aquarium, il y a beaucoup d'animaux à voir. Est-ce que les enfants sont sensibles à la protection des océans?
Oh, particulièrement, oui. Oui, oui. En général, nous, quand on fait des évaluations en fin d'animation, souvent, ils nous disent, moi, je veux plus polluer, mais je veux aussi que les autres, ils polluent plus. Donc, en fait, quand on leur demande ce qu'ils veulent dire aux autres, c'est ça. C'est moi, je voudrais qu'ils arrêtent de jeter des choses dans la mer, parce qu'on voit bien que les animaux, ils n'aiment pas ça.
Mais moi, j'ai vu des enfants sur les plages qui ramassaient les plastiques.
Ah oui, oui, oui. On a des nettoyages de plages, ça se fait assez couramment.
Oui.
Alors, il y a l'association, justement, Nature Libre, hein, qui vient aussi aujourd'hui présenter les produits ménagers au MED, mais elle fait ça une fois par mois, des nettoyages citoyens.
Oui.
Et c'est vrai que c'est toute la famille qui vient, parce que c'est pas que les enfants, hein, mais mes parents, enfants, tout le monde vient voir. Et c'est vrai que quand on a fait un jour un nettoyage de plage, après on n'a plus du tout envie de jeter quoi que ce soit, parce que quand on voit tout ce qu'il y a, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, si tout se retrouve là-bas sur la plage, et bon, alors les collectivités locales nettoient, hein, mais dans des endroits inaccessibles, c'est compliqué, donc il faut... Et puis, quand on voit ce qui est déposé sur la plage, on se dit, mais qu'est-ce qu'il doit y avoir au fond de l'eau, quoi? Ça doit être terrible.
C'est sûr. Donc,
voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment, on fait à nous d'agir, hein, à nous, à la source. C'est pas forcément très compliqué. Il suffit juste de faire le bon choix.
Et puis faire attention, évidemment, à tout cela. Merci beaucoup, Anne.
Merci, Anne.
De rien. Merci aussi à vous. Allez, au revoir.
Au revoir. Donc, c'est le Centre National de la Mer, Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, hein, qui fête la Journée Mondiale des Océans.
C'est la semaine prochaine. Hein.
Et juste une chose, le Nausicaa fête ses 25 ans cette année et vient d'accueillir deux nouveaux pensionnaires qui sont deux petites otaries.
C'est mignon.
Donc,
les otaries.
Voilà, mais c'est un super aquarium. Vraiment, je vous engage à aller dans cet aquarium, pardon, en famille, parce que vous verrez, il y a beaucoup d'animaux, des mammifères, des poissons, bien entendu. Et beaucoup d'autres choses.
À Boulogne-sur-Mer.
À Boulogne-sur-Mer.
7h48, Laetitia, après les poissons, nous allons nous intéresser, eh bien, aux volailles. Avec le coq du plus célèbre supporter des Bleus.
Oui.
On est prêt? C'est Balthazar.
Voilà, Balthazar.
On va alors non pas interviewer Balthazar, mais en quelque sorte son propriétaire. Ça sera peut-être plus simple. Hein. À tout de suite, c'est RMC.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Moins 10, c'est RMC. Alors bientôt débutera l'Euro, les amis. Et forcément, ça sera à vivre sur RMC en intégralité avec toutes les stars du foot qui seront là pour commenter tous ces matchs et donner leurs analyses. Mais Laetitia, bon, alors il y a les matchs, il y a les joueurs, il y a les journalistes d'RMC, mais il y a aussi en quelque sorte des mascottes.
Et oui.
Et là, on va découvrir Balthazar.
Et nous sommes avec Clément.
Clément d'Antibes. Bonjour Clément.
Bonjour Clément.
Bonjour Laetitia et François.
Oh là là, vous avez... Alors là, je suis sûre que vous avez trop hurlé hier soir devant le match avec les Bleus, c'est ça?
Non, ça c'est...
Non?
Des séquelles devant ses joueurs à Nantes.
Ah oui, parce que là, franchement, vous avez une voix, c'est Barry White, mais quand il se réveille, quoi.
C'est le plaquéite, ça s'appelle.
Ça s'appelle une trachéite.
Bon, allez, alors un peu de miel chaud.
On va pas trop vous embêter longtemps, Clément, parce qu'il faut que vous vous reposiez quand même pour que vous soyez en forme pour l'Euro. J'imagine que vous allez un petit peu crier. Bon alors, parlez-nous un petit peu de Balthazar. Qui est ce Balthazar?
Mais Balthazar, c'est mon compagnon de route.
Oui.
Qui vit à côté de chez moi, dans une ferme, et qui me suit régulièrement.
C'est un coq français.
C'est un coq français.
Qui vous suit, mais attendez, il vient, quand vous allez voir un match, il vient toujours avec vous.
Il vient avec moi, Balthazar, voilà,
ouais. Oh, ça doit être la mascotte, alors.
Principalement, quand je suis en voiture ou en train. Alors, il me suit avec moi. Et la particularité, c'est que, en par la température, c'est le cas de dire, le matin, quand il chante, c'est synonyme de victoire.
Ah!
Aïe, aïe, aïe. Ah oui, donc il est un peu devin, c'est ça?
Oui, en plus, c'est un baromètre de la victoire des Bleus.
Alors,
Laetitia, rappelez-vous du poulpe, il y a quelques années.
C'est vrai.
On avait un poulpe qui, à chaque fois, nous prédisait les résultats des matchs et les gagnants.
Ouais, alors là, il va falloir faire attention, là, le 10 juin, là, vous serez là au petit matin à l'écouter, c'est ça? Pour voir si on va gagner.
Le 10 juin, je serai à Paris et en principe, dès pour terminer exactement. Parce que grâce à Balthazar, j'ai appris ce mot. Je pense que quand la Roumanie va nous porter chance en chantant, évidemment, si je ne chante pas, c'est mauvais signe.
Ah, si je ne chante pas, c'est mauvais signe. Alors, je crois que. Il y a un petit problème quand même parce que on vous interdit de participer au match avec Balthazar.
Voilà, exactement. C'est un truc, pour moi, c'est une grande déception. Parce qu'avec Balthazar, on est quand même depuis le 28 février 2016. On est exposé au musée du football de la FIFA à Zurich.
Et moi, Clément, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire... il peut pas rentrer avec vous sur le stade? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Quelles sont les interdictions que vous avez avec ce coq?
J'ai reçu un courrier de l'UEFA.
Oui.
Comme quoi, ils me disent que le coq Balthazar ne pourra pas rentrer dans les stades parce que c'est dangereux. D'abord, ils interdisent les animaux.
Ah oui, c'est ça. Oui. Peut-être pour des raisons sanitaires, etc.
Non. Vous savez pourquoi, Clément? C'est parce qu'il peut perturber les joueurs de l'équipe adverse en faisant cocorico.
C'est ça. Peut-être les déstabiliser.
Ça peut les déstabiliser.
Bon, en tout cas, Clément, on ne va pas vous retenir plus longtemps parce que c'est vrai que là, il faut quand même que vous preniez un petit peu de miel. Miel et lait, ça fait du bien.
Voilà, du lait chaud, du miel, un petit peu... Bon, une goutte de rhum.
Pas beaucoup, Laetitia, il faut
pas
abuser.
Avec modération, bien entendu.
En tout cas, merci pour ce petit clin d'œil, Clément, et d'avoir accepté notre invitation.
Et peut-être que vous aurez une dérogation exceptionnelle d'ici
Peut-être.
Peut-être, pour Balthazar.
Et une caresse à Balthazar.
Et puis sinon, vous savez quoi? Vous installez la télé dans le poulailler.
Ah oui, ça c'est pas mal.
Comme ça, en direct live, il vivra le match.
C'est ça, exactement. Laetitia, pour se dire au revoir, notre vidéo LOLcat de ce dimanche matin, on évoquait tout à l'heure la naissance d'un panda dans un zoo belge. Eh bien, on vous propose justement de voir un tout petit bébé panda.
Ce bébé panda, avec sa maman, sa jeune maman.
Mais alors, on dirait une petite souris, quoi. Parce que quand ça sort, c'est tout petit.
Et oui, c'est pour ça que c'est très difficile de savoir si une mère panda est gestante ou pas. Parce que vous imaginez,
c'est un petit.
Elle n'a pas de gros ventre, quoi.
Exactement. Voilà. Et donc, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. C'est assez étonnant de voir que, quand un bébé panda naît, c'est vraiment tout petit. Ça fait quoi? 120 grammes, c'est ce que vous disiez?
120 grammes, voilà.
Tout à l'heure.
Celui-là, il a 170 grammes.
170 grammes. Oui, forcément. Qu'il est belge. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là.
Oui, bon dimanche à tous. Je vous remercie d'abord pour de nous écouter et puis pour nous soutenir, tous les sinistrés des
inondations,
bien sûr. Et bon courage à ceux qui y sont.
Moi, j'ai une idée pour le coq, s'il peut pas emmener le coq au 11, qu'il fasse le coq au 20.
Ouais. Ça, c'est pas mal aussi,
c'est bien ça.
Le jeu de mots. Il a réfléchi toute la nuit.
Si Laetitia avait un sac à main, je pense que vous le prendriez en pleine figure, Jean-Luc. Bon, on se retrouve dans un instant.
Oui, nous aussi, on va parler d'inondation.
Et oui, que se passe-t-il? Que faut-il faire quand une voiture prend l'eau?
Si votre panda a été inondé, ça peut arriver.
Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va voir ça dans quelques instants après la météo et les infos. C'est l'automobile sur RMC. À tout de suite.